L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier.
Bonjour à tous. Il a dit oui à l'union de la gauche. Le Parti Socialiste a voté largement en faveur de l'accord avec LFI, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste Français. Le parti présidentiel La République En Marche change de nom et devient Renaissance, un parti populaire qui a vocation à être ouvert aux citoyens et aux élus d'où qu'ils viennent, indique son délégué général Stanislas Guérini. L'ONU a annoncé l'envoi d'un nouveau convoi pour évacuer les civils de l'usine de Mariupol, alors que les bombardements russes ont frappé la ville malgré le cessez-le-feu instauré pour 3 jours. La France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu'à maintenant, soit 300 millions de dollars supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. Plus de 6 milliards d'euros ont été réunis lors de ce fameux sommet. L'affaire des fameuses piqûres en boîte de nuit ne fait que commencer. En France, 130 enquêtes sont désormais ouvertes après que des hommes et des femmes pensent avoir été victimes de piqûres injectées à leur insu dans des discothèques. Les victimes ont été prises de vertige et de nausées par la suite. La Ligue Europa Conférence, impuissant face au Feyenoord de Rotterdam, l'OM échoue aux portes de la finale. Incapable de trouver la faille en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence hier soir, 0-0, Marseille n'a pas réussi à remonter son but de retard. 12 ans que les fans de Pandora attendaient ça. On en sait désormais plus sur la suite d'Avatar, une première bande-annonce de ce deuxième opus intitulé La Voix d'eau est diffusée depuis cette semaine. On y découvre les images de la planète dont les navires ont désormais colonisé la partie aquatique. Le film est attendu le 14 décembre prochain au cinéma. C'est officiel, après 18 saisons, le programme emblématique de France 3, Plus belle la vie, va tirer sa révérence. Le groupe France Télé explique que les attentes des téléspectateurs et la consommation des programmes ont évolué depuis 18 ans et qu'un renouvellement de l'offre créative est du coup nécessaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour à tous, voilà, il est 7h02, nous sommes en direct pour ce rendez-vous matinal et hebdomadaire du MAG de l'IMO. Après des informations en demi-teinte, on va essayer de vous donner un peu de bonne humeur ce matin. Et bienvenue donc dans ce MAG de l'IMO. On est le 6 mai, un petit 9 degrés, ça va monter jusqu'à 21 degrés, n'est-ce pas ? Fabienne avec moi pour cette matinale.
Bonjour Sylvain, comment ça va ?
Ça va et vous ?
Très bien.
Au programme, qu'est-ce que nous avons sur cette matinale ?
Eh bien, on va suivre, grâce à aux chroniques de la rédaction, aux interviews, toute l'actualité immobilière. Il se passe toujours plein de choses, ce qui concerne les professionnels de l'immobilier, les futurs acquéreurs et les propriétaires. Et puis, en deuxième heure, on va avoir un grand invité. Sylvain, vous le connaissez bien ?
Alors, je le connais bien, et d'ailleurs, effectivement, ça fait un moment, chers amis, si vous venez de vous lever, que je n'ai pas animé, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps, mais notre amie Fabienne était à la manœuvre. Je vais souhaiter effectivement animer cette matinale parce que je suis ravi d'apprendre, et j'ai vu cette semaine, j'ai un peu raccroché les wagons. Ce sera Maurice Bancet, le fondateur du Apsis Group, qu'on recevra tout à l'heure, un grand monsieur de l'immobilier, quelqu'un qui a une vision et qui porte ce qu'on appelle un immobilier de conviction. Je vous propose de découvrir le personnage et vous allez voir, c'est plutôt pas mal.
C'est vrai que c'est un orfèvre de l'immobilier commercial.
Alors justement, on va enchaîner maintenant, il est 7h03, avec nos chroniques habituelles. On se retrouve tout de suite après.
Le MAG de l'IMO, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Simplification et économie d'échelle. La loi Lemoine permettra de changer d'assurance emprunteur à n'importe quel moment. La loi Lemoine, c'est une nouvelle législation qui encadre la résiliation de l'assurance de prêt immobilier. En substance, elle permet de résilier plus facilement son contrat. Mais ce n'est pas si facile que ça. Explication de texte par Vincent Fazaro.
Pouvoir changer d'assurance emprunteur comme on change de forfait de téléphone ou de fournisseur d'énergie, ce sera bientôt possible grâce à la loi Lemoine qui a été publiée au Journal officiel fin février dernier. Tout détenteur d'un contrat d'assurance emprunteur pourra résilier à tout moment dès le lendemain de la signature du prêt et pendant toute la durée de ce dernier son assurance. Ce changement s'appliquera d'abord pour les contrats signés après le 1er juin, puis le 1er septembre pour les contrats signés antérieurement, quelle que soit leur ancienneté. Une bonne nouvelle car cette assurance emprunteur est depuis longtemps un poste obligatoire de dépense important sur un crédit immobilier et les conditions pour en changer étaient jusqu'ici très cadrées. Il fallait soit profiter de la loi Hamon, c'est-à-dire en changer dans la première année de contrat, ou ensuite se caler sur l'amendement Bourquin qui permettait de changer d'assurance emprunteur à condition de le faire à la date anniversaire et de prévenir 2 mois avant sa banque ou son organisme de crédit. Maintenant, les conditions sont donc allégées, vont le devenir, en tout cas c'est ce qu'espèrent les pouvoirs publics. Ce sont des économies avec des organismes qui vont tirer les prix vers le bas pour attirer de nouveaux clients. Autre avantage possible, accompagner les personnes dont les situations ont changé, car sorties d'un emploi à risque ou d'une situation de santé fragile. La simplification pour les changements d'assurance emprunteur vont aider les particuliers et faire bouger dès maintenant les professionnels.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Il est 7h06, vous êtes dans votre Mag de l'Immo et Fabienne, je crois qu'il y a de la réflexion aux alentours du tertiaire, notamment des bureaux.
Oui, effectivement, et tous les passionnés de tennis le savent, Roland Garros arrive, et bien la Covid a accéléré la réflexion là-dessus. Vojo, qui est la filiale du groupe Accor et de Bouygues Immobilier, aménage pour Roland Garros un espace de coworking éphémère au sein du cours Langlaine. Donc, pendant les qualifications du Grand Chelem, les coworkers, quand ils veulent faire une petite détente, apparemment, ils vont pouvoir, sur leur terrasse, au calme, regarder les échanges. Vous qui êtes invité par toutes les sociétés, Sylvain, ça vous dit de regarder le tennis comme
pourquoi,
ça
pourquoi pas bon, peut-être allier le sport et la réflexion professionnelle ou les rencontres professionnelles. Je crois d'ailleurs que le patron de Wojo, Stéphane Ben Simon, l'avait déjà fait l'équivalent au Stade de France, il me semble.
Ah oui, il aime le sport. Eh bien, il nous l'explique, Stéphane Ben Simon, c'est le patron de Wojo, on l'écoute. Stéphane Ben Simon, bonjour, vous êtes le directeur général de Wojo et vous investissez Roland Garros. C'est une première ?
Alors oui, c'est une première. C'est grâce au partenariat entre Accor et Roland Garros qu'on a pu s'appuyer sur ce partenariat, puisque Accor est notre co-actionnaire. De pouvoir investir effectivement en Roland Garros pendant la semaine des qualifications et démontrer qu'on peut travailler dans des endroits iconiques qui font rêver beaucoup de gens. Et on installe un espace de coworking, des salles de réunion pendant une semaine qui donne accès aux qualifications et en même temps de pouvoir travailler, de pouvoir se réunir. Et ça prouve la nouveauté, la transformation du monde du travail en travaillant de là où on souhaite.
C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. En général, quand on se rend au bureau, c'est pour travailler. Quand on se rend sur un terrain de tennis, c'est pour regarder un beau match. Vous vous dites, l'espace de bureau, il peut prendre place n'importe où.
Oui, on est convaincu que l'espace de bureau, maintenant, avec ce que nous avons vécu, peut prendre place n'importe où. Et pourquoi ne pas cumuler un aspect ludique et festif avec un espace où on peut aussi travailler calmement en équipe et être peut-être sans doute plus productif et en tout cas avoir un moment privilégié de travail. C'est pour ça qu'on le fait de façon éphémère et c'est une semaine.
Et après la généralisation du télétravail dans le cadre de la pandémie, il y a eu beaucoup de réflexions sur les bureaux. Alors certainement, les professionnels ont commencé avant. Vous avez senti une accélération ? Ce qui est possible aujourd'hui, cette initiative, elle n'était pas nécessairement possible avant. Là, vous sentez que les ingrédients sont réunis pour tenter des choses et installer les bureaux un peu partout ?
Absolument. Je suis convaincu de la transformation des espaces de travail, à la fois pour les entreprises et également pour les collaborateurs des entreprises, puisque pour, je pense, la première fois, les deux concordent parfaitement, le besoin de flexibilité des entreprises, de sans doute réduire l'espace de travail, de les optimiser, et en même temps le souhait des collaborateurs de vivre, de retrouver un sens pour aller au travail, d'avoir de l'épanouissement au travail, du bien-être au travail. Et là, c'est un clin d'œil que l'on peut faire sur un espace très privilégié et ludique sur lequel on peut démontrer qu'on peut travailler n'importe où. Et donc ça rejoint les attentes à la fois des entreprises et des collaborateurs.
Alors Wojo est installé à l'échelle internationale. Combien de mètres carrés, de combien disposez-vous ? Et est-ce que vous ressentez cette demande d'espaces de travail différents, nouveaux, plus modernes, plus adaptés partout en Europe ?
Oui, absolument. Alors aujourd'hui, nous avons 15 sites en France, essentiellement à Paris, Lyon, Lille et un en Espagne. Et nous investissons également les hôtels Accor avec des espaces de travail Wojo, des Wojo spots dans les hôtels, plus l'Amérique latine et également l'Allemagne où nous installons dans les hôtels et transformons des espaces dans les hôtels. Et pour répondre à votre question plus en détail, oui, on ressent effectivement le besoin des entreprises qui a été évidemment accéléré par la crise, de se reposer des questions sur les schémas directeurs des espaces de travail pour intégrer évidemment le télétravail, mais également pour répondre à des questions très claires d'optimisation des espaces, parce qu'aujourd'hui les espaces sont occupés en moyenne sur une semaine à 50%, peut-être 70% mardi, mercredi, jeudi et sans doute 30% le lundi et vendredi. Et en termes de RSE, de développement durable, c'est pas possible de chauffer les immeubles toute la semaine, ouais, alors qu'ils sont à moitié occupés. Et de la même façon, de les payer, parce que c'est le deuxième poste après le poste de salaire, le poste des bureaux. Et ce que l'on propose, nous, avec nos espaces privatifs, nos espaces de coworking et nos salles de réunion, ce sont des alternatives pour flexibiliser au maximum ce poste qui est ô combien important pour la culture de l'entreprise et pour la performance de l'entreprise.
Alors, un bureau sur terre battue, est-ce que c'est une offre économique, c'est du haut de gamme ? Quel tarif, en bref ?
Alors, c'est une journée de travail qui est à 35 euros pour ceux qui ont réservé le plus tôt et 45 pour ceux qui réserveront un peu plus tard. On a privilégié ceux qui allaient très vite. Et là, on a été débordé en quelques heures sur les demandes de coworkers, de travailleurs qui veulent vivre cette expérience-là. Effectivement, ça donne droit à cette journée de travail et en même temps de pouvoir regarder les entraînements de joueurs de tête de série et de suivre les qualifications pour les joueurs qui sont en qualification. Donc on cumule à la fois le côté plaisir et également le côté travail, puisque en même temps on propose des salles de réunion dans nos espaces et donc les équipes peuvent se retrouver, travailler et puis balader à l'intérieur de Roland-Garros et vivre une expérience inédite.
Merci Stéphane.
Ça s'est jamais fait.
Merci Stéphane Ben-Simon pour cet entretien. Et oui, Wojo, filiale du groupe Accor, leader français des bureaux et espaces de travail flexibles, investit le lieu mythique du tennis mondial qu'est Roland-Garros pour créer un espace de coworking éphémère. Bon match Stéphane Ben-Simon. Au revoir.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Votre projet immobilier, vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas? Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé? Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable. Avec Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Voilà, il est 7h14, nous sommes toujours en direct pour ce Mac de l'Immo. N'est-ce pas, Fabienne ? Est-ce qu'il faut mettre des défibrillateurs dans les copropriétés ? C'est pas très drôle, mais terriblement efficace.
Ben oui, la santé, c'est important. Ça peut sauver des vies. Vous savez peut-être que 80 000 personnes sont victimes chaque année d'un accident cardiaque. Alors, Foncia a décidé de proposer à ses clients copropriétaires d'installer un défibrillateur dans leur immeuble d'habitation. Explication de Bérénice Deville.
Chaque année en France, environ 80 000 personnes sont victimes d'un accident cardiaque, dont 75% à domicile. C'est la première cause de décès chez les femmes et les plus de 65 ans et la deuxième chez les hommes. Le taux de survie est estimé entre 5 et 8%. Pourquoi est-il aussi bas ? Eh bien parce que le délai d'intervention pour sauver la victime est de seulement 5 minutes. Or, les secours mettent environ 10 à 15 minutes pour arriver sur place dans une zone urbaine. De plus, bien que 7 fois sur 10, ces arrêts surviennent devant témoins, très peu, au final, font les gestes de premier secours. Ce qui pourrait sauver des milliers de vies chaque année, c'est l'utilisation dès les premières secondes de l'accident cardiaque d'un défibrillateur qui permettrait d'administrer un choc électrique couplé à un massage cardiaque en attendant dans les secours. De ce fait, de plus en plus d'acteurs de l'immobilier ont envie de faire bouger les choses. C'est le cas de Foncia, par exemple, entreprise française d'administration de biens et de transactions immobilières, qui pose la question à ses clients : faut-il équiper les copropriétés de défibrillateurs automatisés ? Il faut savoir que la loi impose déjà aux ERP, établissements recevant du public, depuis le 1er janvier 2020, d'installer ce qu'on appelle un DAE, c'est-à-dire un défibrillateur automatisé externe, mais les habitations ne sont pas soumises à cette obligation. Foncia propose donc aux propriétaires d'installer un défibrillateur dans chaque immeuble. Cela permettrait de sauver de nombreuses vies, d'autant plus que son utilisation est très simple, surtout lorsqu'il est équipé d'une assistance vocale. Il suffit de l'allumer et de suivre les consignes données par l'appareil lui-même. Cette décision d'installer un défibrillateur dans un immeuble d'habitation fait généralement l'objet d'un vote en assemblée générale. Pour cela, il faut simplement demander à son syndic de mettre cette demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires. Afin de mieux maîtriser les charges, certains syndics de copro professionnels proposent une offre tout inclus pour leurs immeubles, qui comprend la fourniture d'un défibrillateur tout équipé, la pose ainsi que la maintenance annuelle qui est essentielle pour être sûr du bon état de fonctionnement du matériel qui peut être utilisé à tout moment.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Il est 7h17, vous êtes toujours avec nous, nous sommes le 6 mai 2022, on est ravis d'être avec vous, le printemps arrive, les beaux jours, vous allez pouvoir en profiter. Alors, on a parlé des défibrillateurs, c'était pas très drôle, mais quand même efficace. On va parler maintenant de l'évaluation de son bien immobilier. On pense parfois que son bien, c'est la 8e meilleure ville du monde, n'est-ce pas Fabienne ?
Oui, exactement.
C'est pas toujours évident.
Et puis l'acheter, c'est un beau moment, c'est un projet, mais il faut le vendre aussi, et il faut le vendre au prix juste. Pas toujours facile. Hein. Rémi Fab, le cofondateur, CEO de Zephyr, leader de la vente immobilière instantanée, nous donne ses conseils pour réussir l'évaluation de son bien, le vendre au prix juste. Il s'en est expliqué à Bérénice Deville.
Rémi Fabre, bonjour.
Bonjour Bérénice, merci de me recevoir.
Avec plaisir, vous êtes CEO et cofondateur de Zephyr. Nous allons discuter ensemble des choses à faire pour réussir l'évaluation de son bien immobilier et pour le vendre au juste prix. Mais juste avant, pouvez-vous nous présenter Zephyr ?
Oui, donc Zephyr, c'est le leader de la vente immobilière instantanée. Donc ce qu'on permet de faire, c'est on permet aux propriétaires vendeurs du coup de vendre leur bien immobilier, donc appartement ou maison, à Zephyr directement, et donc ils viennent en ligne sur zephyr.fr et reçoivent une offre sous moins de 7 jours.
Alors justement, quand on veut vendre son bien immobilier, parfois ça peut aller très vite, mais parfois c'est un peu plus long et ça devient un peu embêtant pour les vendeurs. Quels conseils vous donneriez pour le vendre assez rapidement et surtout au juste prix ?
Oui, alors le premier conseil, je dirais, c'est de venir sur zephyr.fr et de demander une offre d'achat.
Mais, bien sûr.
Non, plus sérieusement, je pense que il y a plusieurs choses à faire. Je pense que ce qui est quand même une bonne habitude et ce que j'ai l'impression que nos clients font beaucoup, c'est de demander plusieurs avis à des professionnels, donc des agents locaux, des experts du marché un petit peu plus connectés à la donnée comme Zephyr ou d'autres. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis Et ensuite, bah, plein de conseils pour ensuite comment le mieux le vendre une fois que vous savez plus ou moins où commencer votre mise à prix.
Et justement, là, vous parlez des personnes qui demandent conseils. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui passent par des professionnels de l'immobilier pour vendre leurs biens ?
Oui, alors d'ailleurs, il y avait une étude qui avait été faite par Opinion Way, je pense, pour Capfi France, qui datait de 2019. Et il y avait 51% des Français qui passaient par des professionnels de l'immobilier. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. En tout cas, si je vous donne celles pour lesquelles les gens passent chez nous, c'est souvent la sécurité et donc la sérénité et la simplicité. Je pense que quand on vend un bien immobilier, il y a énormément d'intermédiaires, c'est très complexe. Donc il y a les agents, les courtiers, les banquiers, les notaires. C'est compliqué, il suffit d'avoir un nouvel enfant ou un projet ainsi qu'un métier. Ça devient très vite très très dur à gérer et très stressant. Et surtout l'incertitude autour de tout ça. Donc vous ne savez pas combien vous allez vendre, vous ne savez pas combien de temps ça va prendre. Si vous trouvez un acquéreur, vous n'avez aucune idée s'il va obtenir son crédit. Et donc, quand on ajoute tout ça, c'est très anxiogène. Et donc, ouais. Je pense que c'est pour ça que les gens se tournent vers des professionnels.
Donc, demander conseil ou faire appel à des professionnels, c'est votre premier conseil. Quel est le deuxième ?
Oui, alors je pense qu'à partir du moment où vous avez décidé, vous avez plus ou moins une idée de votre prix, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Je pense qu'il y a vraiment différents profils. Et nous, on en voit différents, en tout cas. Je pense qu'il y a des gens qui souhaitent maximiser leur prix net vendeur et donc vraiment vendre au plus cher. Ça ne veut pas forcément dire vendre le mieux possible, mais c'est-à-dire vendre le plus cher. Ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et donc, dans ce cas-là, je vous conseille de le vendre tout seul. Il y a plein de plateformes qui vous permettent de le faire. Par contre, si vous souhaitez le vendre de manière simple ou le vendre en toute sérénité parce que vous avez d'autres projets, d'autres préoccupations dans la vie, là, il y a des alternatives qui vont de l'agent immobilier traditionnel à Zephyr qui vous permet de le vendre en ligne en quelques clics.
On parle beaucoup du nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique. Est-ce qu'il y a des choses à faire en tant que vendeur ?
Bah, je pense qu'il y a beaucoup de communication autour des passoires thermiques et effectivement des lois qui vont potentiellement interdire la mise en location des DPE qui sont de mauvaises notes ou des notes en tout cas les plus faibles comme F ou G. Je pense que le plus simple, ce que nous on voit et ce que je conseillerais, c'est de faire son DPE dans un premier lieu pour savoir où elle se constitue. Et si on a dans un cas où on a une note qui est une note F ou G, enfin une classe de DPE F ou G, dans ce cas-là, je conseille, enfin ce que nous on conseille, c'est l'audit énergétique pour vraiment comprendre d'où viennent les problèmes. Et ensuite, il y a aussi des financements publics donc, qui peuvent aider en fonction de quel type de travaux vous voulez faire. Donc, vous pouvez vous faire aider par l'État pour financer la rénovation de votre bien. Mais attention quand vous faites ça, parce qu'il faut le faire avec des artisans labellisés RGE, ce qui est obligatoire pour toucher les aides. Donc, ça dépend si vous souhaitez toucher les aides. Mais dans tous les cas, je pense que la majorité des gens, les choses qui peuvent aider, c'est installation de chauffage, isolation des fenêtres et des murs. Mais effectivement, il faut être vigilant et surtout si vous êtes en période d'acquisition et vous souhaitez acheter un bien, attention au DPE, avec la loi qui change, ça pourrait impacter le prix également.
Et justement, si un propriétaire souhaite vendre son bien qui est une passoire thermique, vaut-il mieux qu'il fasse des travaux avant de le vendre afin d'obtenir une meilleure étiquette ou vaut-il mieux qu'il le vende directement sans passer par la case travaux de rénovation énergétique ?
Alors, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que tout a un prix. Donc, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de à quel point la personne a envie de s'investir. On peut très bien vendre un bien qui est en AF ou G ou une autre classe de DPE assez faible. Il n'y a aucun problème. C'est juste que vous vendrez moins cher. Donc, la question, c'est à quel point vous avez envie de vous investir. À combien est-ce que vous souhaitez vendre votre bien? Est-ce que vous êtes capable et vous avez envie et ou l'argent de faire ces travaux pour remonter la classe et le vendre plus cher? Là, je pense que tous les projets sont différents. Et je pense que donc, quoi qu'il arrive, vous trouverez quelqu'un potentiellement qui l'achètera moins cher avec une classe plus faible pour lui-même faire les travaux.
Au cas par cas, donc. Dernière question concernant l'annonce, qui est importante tout de même. Quels tips vous nous donneriez ?
Il faut savoir faire une annonce et il faut savoir faire une belle annonce, sinon vous allez laisser de l'argent sur la table pour des raisons un peu dommages. Et dans le cas où vous le faites, attention à l'éclairage. Il faut que les pièces soient rangées, il faut que ça donne envie, il faut que les gens se projettent. Nous, ce qu'on fait aussi chez Zephyr, c'est qu'on va permettre d'ajouter un plan. Et donc, comme ça, les gens voient les dimensions, voient le bien. Potentiellement des visites virtuelles, c'est de plus en plus à la mode. Nous, chez Zephyr, on n'en fait pas. C'est pas une grosse problématique, mais ça peut aider. Donc là, je pense que le conseil, quand même, la règle d'or, c'est vraiment s'assurer que ça soit propre, que ça donne envie, que ça soit bien éclairé, donc en journée, et que les gens se projettent.
Merci beaucoup, Rémi Fabre.
Merci beaucoup, Bérénice. Merci de m'avoir reçu.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
enfin ça allait. Confiant t'es peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait vriller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent et j'en prendrai toutes les vertus. Oh, jour après jour, je m'habitue. Quand j'en manque pas trop, je suis déçue. Et grâce à ça, moi j'évolue. Comment va-t-il tuer mes démons? Comment non, j'en en fais, j'oublie mon nom. Oh, tu l'as magie au père, tout s'il t'en manque. Comment va-t-il tuer mes démons? Tuer mes démons. Mes démons, mes démons, mes démons.
Avec ton gel, pas de gros mort, radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille acromate, ne vote que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en en parlant plus. Pour rappeurs, non, pour moins de vues que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Besoin d'explorer autre chose, me plaire dans le cosmos. S'ils parlèrent dans mon dos couvert de vêtements chers italiens, dans leur derrière, j'ferai un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game. Je maîtrise les quatre éléments. Je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer mes démons. Mes démons, mes démons.
Comme un ange en enfer, j'oublie mon nom. Oh, oh. Si la magie au père, tout s'il t'en manque. Comment faire pour tuer mes démons? Tuer mes démons.
Si tu veux, je
c'est une chanson de l'auteur, compositrice, interprète belge Angèle en featuring avec le rappeur belge Damso.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Immobilier en Europe, les prix explosent partout. La pandémie, le confinement qu'elle a entraîné a provoqué une augmentation générale des prix de l'immobilier un peu partout en Europe, à l'exception de l'Italie. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude de Meilleurs Agents, le site d'estimation immobilière dans 7 pays européens, Royaume-Uni, France, Belgique, Allemagne, Portugal, Espagne et Italie. C'est un sujet de Bérénice Deville et Fabrice Coustet.
Le Covid a eu le même effet dans tous les pays européens. L'envie d'acheter plus grand et avec plus de verdure. Des investissements nombreux qui ont souvent provoqué une croissance à deux chiffres des prix de l'immobilier. Mais de fortes disparités demeurent. Pour se loger, il vaut mieux habiter en Italie qu'au Royaume-Uni par exemple. Le mouvement est général dans toute l'Europe. Le développement du télétravail et la recherche d'espace ont incité les habitants des capitales à déménager vers des zones en périphérie des villes, faisant bondir les prix. Ainsi, selon une étude du site Meilleurs Agents, sur 7 pays européens, la hausse est comprise entre plus 8,5% en Espagne et plus 27% au Portugal depuis 2020. Au Royaume-Uni, c'est encore pire, car c'est le pays le plus cher de la sélection. Le prix moyen de l'immobilier est à plus de 3 600 € le mètre carré. Avec le revenu médian national, c'est seulement un petit 40 mètres carrés auquel un ménage peut accéder. Londres, la capitale, est inabordable, avec des prix supérieurs à 15 000 € le mètre carré, à moins de se contenter d'un 12 mètres carrés. L'Allemagne est sur la deuxième marche du podium des villes européennes les plus chères, avec 3 000 € euros le mètre carré en moyenne. Mais forte de 40 villes de plus de 200 000 habitants, les prix sont plus contenus, notamment à Berlin, où le prix du mètre carré à 4 500 euros est équivalent à Bordeaux. Ainsi, avec son salaire médian, le ménage allemand moyen peut prétendre à 45 mètres carrés dans la capitale et 66 mètres carrés dans le pays. La France se positionne donc comme le troisième pays le plus cher en Europe, avec 3000 euros par mètre carré. Le ménage moyen peut s'offrir 64 mètres carrés dans l'Hexagone, mais seulement 19 mètres carrés à Paris. Le Portugal est à la quatrième place, avec des prix moyens autour de 2300 euros par mètre carré. En revanche, Lisbonne flambe à près de 3700 euros le mètre carré, une hausse de près de 28% post-Covid. Enfin, bonne dernière après la Belgique et l'Espagne, l'Italie est le seul pays où les prix de l'immobilier ont chuté. La capitale n'attire pas les investisseurs car elle n'est pas une capitale économique. Résultat, les prix sont en deçà de 3000 euros dans la ville éternelle. À 2845 euros, Rome se compare ainsi avec les prix de Villepinte en Seine-Saint-Denis.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Voilà, il est 7h30 et nous sommes toujours en direct le 6 mai 2021. Un peu frais dehors, mais ça va s'améliorer, n'est-ce pas Fabienne ?
N'est-ce pas ? Et en tout cas, c'est une bonne fin de semaine. Il a fait plutôt beau et la Chambre des notaires continue de travailler, de nous sortir de nouvelles études. D'après son étude, les prix des maisons, des appartements continuent de progresser dans l'agglomération lyonnaise. De son côté, Liberkis, qui est une néo-agence immobilière, constate un autre phénomène à Lyon intramuros. Elle dit diagnostique carrément la fin d'une bulle sur les prix immobiliers, avec un recul des prix de 0,5% au mètre carré par rapport à la fin 2021. Écoutez le décryptage, si vous le voulez bien, de Valentin Héry. Il est directeur d'agence à Lyon pour Liberkis.
Valentin Héry, bonjour, vous êtes directeur agence chez Liberkis à Lyon. Et par rapport aux analyses de la Chambre des notaires, qui révèlent que les prix des maisons et des appartements continuent de progresser dans l'agglomération lyonnaise, vous voyez les choses différemment. Vous pouvez nous expliquer ?
Alors absolument. Donc nous avons mené une étude chez Liberkis sur l'équivalent de 28 000 annonces. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, le prix des transactions était en train de diminuer. En fait, tout simplement, on voit qu'il y a trois phénomènes assez importants. Donc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a plus de biens sur le marché, puisqu'on a plus de 30% de biens sur le marché. Et en moyenne, le prix de vente a diminué de 0,5 et que la durée de vente est passée de 75 à 107 jours. Donc on voit qu'il y a une augmentation, on va dire, des durées de vente et une diminution des prix moyens actuellement sur le marché. Sachant que du coup, effectivement, les notaires, eux, sont en bout de chaîne. Donc peut-être qu'ils vont ressentir ce ralentissement qui reste quand même léger, mais qui reste quand même un petit ralentissement dans les prochains jours et prochains mois.
Et si on regarde l'évolution des prix, étonnamment, les prix baissent. Il y a de quoi s'inquiéter, Valentin Héry ?
Alors, il ne faut pas s'inquiéter, il faut être bien préparé. Ça, c'est vraiment le plus grand conseil que j'ai à donner à nos auditeurs. Il faut savoir bien marketer son annonce. Par des belles photos, par exemple des visites virtuelles, voilà, d'avoir une bonne visibilité, on va dire, au niveau de l'annonce. Il y a des challenges qui sont aussi de bien se faire accompagner par des professionnels et surtout de bien estimer son bien. Les prix baissent, mais si on est toujours sur un prix de marché, les ventes sont bien réalisées. Et toujours bien diffuser l'annonce sur le maximum de portails pour avoir la meilleure visibilité possible et, encore une fois, tirer son épingle du jeu.
Vous vous présentez toujours comme une néo-agence Liberkis. Ça veut dire que vous travaillez différemment ?
Alors oui, tout à fait. On travaille différemment. On est une agence immobilière qui a été créée il y a 3 ans. Et en fait, on a, pour phénomène différenciant, si vous voulez, la commission fixe. On travaille à 6500 euros. D'honoraires de manière fixe, peu importe son bien et sa localité, et avec pour nous leitmotiv, si vous voulez, de délivrer la meilleure expérience client pour tous nos vendeurs et tous nos acheteurs. Et donc aujourd'hui, on a la chance à Lyon de vendre un bien par jour avec une moyenne de 24 jours pour vendre un bien.
Si on fait un point sur l'équilibre entre l'offre et la demande, qui a le pouvoir en ce moment à Lyon ?
Et alors, c'est assez drôle, puisqu'en fait, on est sur un marché qui a tendance quand même un petit peu à s'équilibrer, puisque aujourd'hui, on va dire que le pouvoir était surtout sur les vendeurs, avec donc plus d'acheteurs que de biens sur le marché. Aujourd'hui, on est quand même sur un marché qui a tendance à s'équilibrer, par exemple à l'actualité récente avec les taux de crédit qui sont en train d'augmenter et aussi l'accessibilité au crédit qui fait qu'il y a quand même une partie de la population qui ne peut plus aujourd'hui acquérir de la propriété. Voilà.
Quels sont les arrondissements qui tirent leur épingle du jeu ? Vous avez une vue un petit peu plus locale ?
Ouais, bien sûr. Alors du coup, au niveau des arrondissements qui ont, on peut dire, la cote en ce moment, ça va être surtout le 6e, 7e et 8e arrondissement. Par exemple, dans le 7e arrondissement, on a une progression de 2,3%. Donc qui est une hausse assez sympa. Donc c'est une hausse qui est depuis décembre, tout simplement. On a aussi le 8e qui a plus 0,5. Et dans un autre côté, on a des arrondissements qui font un petit peu moins bien, comme par exemple le 2e arrondissement qui enregistre une baisse de moins 4,1% et le 9e qui enregistre une baisse de 3,8%.
Très bien, merci. On comprend que dans ce contexte marqué par la crise sanitaire et un pouvoir d'achat très impacté par l'inflation, dans votre note, Liberkeys, vous observez que les projets de vente ne sont plus en parfaite adéquation avec les prix du marché et les attentes des acquéreurs. Merci Valentin Héry, vous êtes directeur d'agence chez Liberkeys à Lyon. Merci bien.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
La flambée des prix va-t-elle entraîner une augmentation des loyers impayés ? Certains acteurs du parc locatif privé ont récemment fait part de taux d'impayés élevés, craignant une hausse générale des loyers impayés à la faveur de l'inflation et de l'augmentation des prix de l'énergie. Sylvain, c'est un vrai souci en ce moment sur le marché ?
C'était l'objet de ma chronique sur BFM Business, justement. juste pour donner un indicateur à ceux qui nous écoutent, c'est 3 fois plus d'impayés. En moyenne sur certaines zones. Alors, paradoxalement, ma chère Fabienne, qui sont ceux qui payent le moins leur loyer ?
Je me demande, ouais.
Eh bien, les classes plutôt bourgeoises.
Oh, voilà. C'est pas
parce
bien
que
honnête.
Le premier marqueur social des populations dites ouvrières ou légères, c'est le loyer, et le loyer devient prioritaire. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce ne sont pas forcément les plus précaires qui décrochent. Il y a un deuxième indicateur, avant qu'on écoute cette chronique, c'est le décrochage de l'énergie. Le premier poste de décrochage avant le loyer, c'est l'énergie. Et quand on voit la flambée des coûts de l'énergie, on peut s'inquiéter légitimement. Et c'est pour ça que cette interview, mon avis, tombe à point sur la garantie de loyers impayés. N'est-ce pas bien ?
Oui, heureusement qu'il y a des grands acteurs de la garantie des loyers impayés, souvent des interviews sur nos antennes de radio IMO. En tout cas, l'explication de texte par Fabrice Coustet et Bérénice Deville.
Contexte global d'inflation, augmentation des prix de l'énergie consécutive de la guerre en Ukraine, inquiétude sur l'avenir professionnel. Le contexte actuel n'est guère propice à l'enthousiasme et fait même craindre à certains acteurs de l'immobilier une hausse du taux de loyer impayé. En témoigne Arnaud Accard, le président d'Immo Direct, une plateforme de gestion locative qui a remarqué une hausse inégalée du taux d'impayé de 3% sur 2000 biens gérés, soit 3 fois plus qu'avant la crise. Une situation qui pourrait par ailleurs se faire davantage ressentir hors des grandes villes, les ménages étant déjà soumis à d'importantes contraintes financières, notamment en termes de prix du carburant, qui devient un poste prépondérant dans les dépenses, et ce malgré les chèques énergie et autres barrières anti-inflation. La situation alarmante pour certains est néanmoins à nuancer. Plusieurs acteurs du parc public ont noté à l'inverse une baisse du taux d'impayé depuis la crise sanitaire. Le plus gros bailleur de la ville de Paris a ainsi comptabilisé 48 millions d'euros d'impayés de loyer fin mars 2022 contre 51 millions en février 2021, un chiffre néanmoins légèrement plus haut que celui d'avant-crise. Même constat pour la RIVP, Régie immobilière de la ville de Paris, qui a mentionné un montant comparable et même légèrement en baisse par rapport à celui de fin mars 2021. Enfin, le ministère du Logement n'a reçu pour l'instant aucune alerte des CAF, Caisse d'allocation familiale, ou de l'ANIL, Agence nationale pour l'information sur le logement. Outre la flambée des prix de l'immobilier, c'est véritablement la flambée du coût de l'énergie qui pourrait mettre certains ménages en difficulté. Une donnée à suivre de près dans les prochains mois et qui va relancer à coup sûr la polémique sur le pouvoir d'achat.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
ThyssenKrupp Elevator. Et maintenant, TK Elevator, entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond. www.tkelevator.fr.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Eh bien, le village Baïssé à Paris, qu'est-ce que c'est? C'est l'accélérateur de start-up du Crédit Agricole Immobilier. Ils ont décidé de lancer un appel à candidature parce que face au défi de la densification de l'urbanisation et l'urgence environnementale, eh bien, Crédit Agricole Immobilier veut trouver des solutions pour diminuer l'impact carbone, anticiper le réemploi des matériaux, la rénovation, la réversibilité des bâtiments. C'est Marc Oppenheim, DG de Crédit Agricole Immobilier, qui nous parle de cet appel aux startups. Marc Oppenheim, bonjour. Vous êtes le directeur général du Crédit Agricole Immobilier et vous lancez un appel à candidature pour inventer la ville de demain. Ceci est fait donc via le Crédit Agricole Immobilier et le village by Crédit Agricole Paris. Et c'est vrai qu'on ne sait pas nécessairement ce que ça recouvre, le village du Crédit Agricole. On en a beaucoup entendu parler, mais finalement, à quoi ça sert ?
Bonjour. Le Crédit Agricole, comme vous le savez, c'est comme le grand accompagnateur de l'économie française. Et on a décidé il y a quelques années qu'on voulait aussi favoriser l'émergence de nouvelles activités, des start-up. Et donc, on a lancé un réseau d'incubateurs en France. Il y en a plus d'une vingtaine maintenant. Et on est collectivement le plus gros incubateur de start-up en France, devant tout le monde, devant même l'État, dans l'accompagnement. Et on en a à Paris qui était le premier, puis que Crédit Agricole Immobilier a construit, donc on en est pas peu fier. Et donc on s'est dit que cette thématique de la ville de demain, c'était aussi quelque chose qu'on voulait mettre en avant, parce que on en ressent un besoin impérieux pour nous tous.
Alors vous dites que ça répond à l'urgence environnementale, à la densification de l'urbanisation. Quel défi voyez-vous précisément ?
Les défis, je pense que on les connaît tous, on les vit bien dans la communauté de l'immobilier. On a un parc de logements qui vieillit, se renouvelle pas assez, grossit pas assez. On a quand même un parc de logements qui va moins vite que la croissance de la population. Et on est tous de plus en plus conscients. Nous, on l'est beaucoup, mais on sait qu'en termes de communauté, y compris les gens qui vivent dans la ville, ne sont pas tous encore tout à fait au bon niveau. L'urgence environnementale, elle est devant nous. Et le parc immobilier, il est une des composantes très importantes de ce défi de mutation de l'économie française.
Alors, les candidatures que vous appelez de vos voeux, quelles sont-elles ? D'accord, c'est des start-up, mais quel type de projet vous intéresse ?
On a voulu ratisser un peu large, parce que quand on est dans une démarche innovation, et notamment avec des start-up, avoir les idées préconçues sur ce qu'il faudrait, c'est exactement le contraire de leur démarche à eux, qui est de se mettre dans les interstices auxquels on n'a pas encore pensé, d'utiliser des techniques qui ne sont pas encore mûres, attraper des besoins qui ne sont pas très bien qualifiés. Parce que si on était sur justement ce qui est mûr, stable, rentable et que tout le monde veut, normalement ça existe déjà. Et donc on s'est mis de manière très pratique en disant on a listé les sujets qui nous paraissent être les sujets du moment, qui offrent des perspectives mal servies. Et sur ces créneaux-là, qui sont les créneaux qu'on a illustrés dans notre appel à projet, on s'est dit, allez-y les filles et les garçons, vous avez une idée, vous avez un projet, qui peut exister dans la vraie vie. Et certes, on va vous aider parce que les démarches d'appel à l'innovation, bah, c'est des démarches qui ont du coaching, qui aident ces jeunes entreprises à pitcher, à bien formuler leur business plan pour être crédible. Donc ça, c'est de toute façon pour tous ceux qui concourent un plus quoi. Et puis celles qu'on va retenir, on va leur donner un peu d'argent. Donc ça, c'est toujours bien pour une jeune entreprise. Bah, le premier, c'est une dotation de 10 000 euros, après 6 000, après 4 000. Donc c'est pas neutre, mais c'est pas le vrai déterminant. Le vrai déterminant, c'est d'être hébergé, de bosser avec le Crédit Agricole, et puis d'avoir l'opportunité de tester sur nos programmes ce qu'ils vont faire. Parce qu'en fait, le vrai plus, c'est d'avoir les premières références. Quand on est une jeune entreprise, c'est les premiers clients qui comptent.
On parle des deux grandes thématiques, vous pouvez nous les rappeler ?
Les deux grandes thématiques qu'on a choisi de pousser, c'est les usages. C'est-à-dire comment finalement on vit dans la ville. C'est assez large, hein, les usages. Hein. Les usages, c'est tous les sujets sur comment vont évoluer les bâtiments dans le temps, comment les gens vont vivre dedans. La mobilité, la santé, le bien-être, on a bien vu pendant ces deux dernières années, nous ça fait 4-5 ans qu'on bosse dessus, que les sujets des ondes électromagnétiques, de la qualité de l'air, du confort, c'était des trucs qui sont très chers à notre cœur. Nous on a commencé, je vous dis, il y a 4-5 ans, c'est pas les deux années de situation sanitaire qui nous donnent tort. Donc ça c'est un premier paquet, et on a rajouté là-dedans quelque chose qui est essentiel. On a vraiment une grande difficulté en France aujourd'hui à accepter l'acte constructif. Tout le monde veut bien qu'on construise, mais loin de chez soi. Et donc, on a rajouté l'acceptabilité, comment on aide à l'acceptabilité de nouveaux projets, comme étant une des sources intéressantes dans ce premier paquet sur les usages. Et puis le deuxième, bah, c'est le bas carbone, le climat. On est tous dedans, c'est comment on utilise des nouveaux matériaux, comment on gère bien les sites pour tenir compte de ce qui est à la mode, on appelle ça la résilience, quoi. Et puis le pouvoir d'achat, les charges, les coûts d'énergie, les fluides.
Merci Marc Oppenheim pour cet éclairage sur cet appel à candidature pour inventer la ville de demain. Au revoir.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Il est 7h46 et sur le plateau, notre invité est présent. On va lui faire un petit salut. Salut Maurice Bancet, le président fondateur d'Apsis Group. Salut Maurice.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Bonjour Fabienne.
Bonjour Monsieur Bancet. Je me permets de lui dire bon anniversaire parce que Sylvain, vous savez que Apsis fête ses 25 ans.
Absolument. Hein,
vous avez 25 ans Maurice Bancet, bravo.
Je n'ai que 25 ans et j'en suis ravi.
Et je peux vous dire qu'il fait 25 ans, mais pas plus. Hein. Mais pas plus. Ah bah voilà, c'est symbolique et ça me fait extrêmement plaisir puisque comme vous le savez, je vous l'ai écrit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de mystère. Si je suis là ce matin pour cette matinale, c'est pour Maurice Bancet.
Et je ne sais pas s'il a une bonne mine parce qu'il va dans les îles. Et bien on a une petite chronique de Johanna Zilberstein sur l'arrivée des beaux jours. Pendant les beaux jours, les Français découvrent la richesse des côtes françaises. Selon Meilleur Agent, qui a fait une analyse sur les 5 plus grandes îles bordant les côtes du littoral métropolitain, et bien les Français n'arrêtent pas de s'y ruer. On l'écoute.
Ces paysages variés font de la France l'un des territoires les plus prisés d'Europe en matière d'immobilier. La France affiche ainsi un attrait non masqué quand il s'agit d'acheter un bien en montagne ou en littoral. Un constat qui a poussé Meilleurs Agents, leaders de l'estimation immobilière, à s'intéresser au prix de l'immobilier dans les 5 plus grandes îles bordant les côtes du littoral métropolitain. Premier enseignement de l'étude, l'île de Ré est la plus onéreuse avec un prix moyen de près de 7 500 € du mètre carré. De quoi s'offrir seulement 20 mètres carrés avec un budget de 150 000 €. En revanche, la Corse est non seulement la plus vaste, mais aussi la plus accessible des îles, moins de 3 500 € par mètre carré. Enfin, sachez qu'un bien à Noirmoutier, Belle-Île-en-Mer et Oléron vous coûtera plus cher qu'à Marseille, pourtant deuxième ville la plus chère de France. Comme quoi, même en France, vivre sur une île doit se mériter.
Le Mac de l'Immo, la start-up Immo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Et bien on va passer à une petite musique.
Belgique.
Non, nous sommes sur Startup Imo.
Pardonnez-moi un instant, j'ai été ébloui par mon invité, mon cher Sylvain.
Elle est trop forte. Voilà, on va écouter notre ami Jean-Michel Royot, qui était membre du directoire de Arkéa Bank. Jean-Michel, qui maintenant, on en est très fiers, est notre chroniqueur et advisor du groupe.
Il a déniché une petite start-up, Ozol, dirigée par Maxime Cousin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient au salon CES de Las Vegas et il n'y avait pas de prise. Ils se sont dit, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Donc, Ozol a mis au point des solutions d'énergie nomades, n'importe où. Vous pouvez travailler comme le Wi-Fi
on
pour l'Internet.
On va au CES de Las Vegas et on ne trouve pas de prise de courant. C'est juste...
C'est Jean-Michel Royot qui a trouvé ça.
C'est un gag.
On va écouter sa petite chronique.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi de recevoir Maxime Cousin. Bonjour Maxime.
Bonjour Jean-Michel.
Comment allez-vous ?
Très très bien, j'espère que vous aussi.
Ah bah écoutez, moi quand je viens à Radio Imo, le sourire est sur mes lèvres. Donc ravi de vous accueillir pour que vous nous fassiez découvrir votre très très belle start-up qui s'appelle Ozol, O-S-O-L. Et ce matin, on va parler évidemment PropTech, mais énergie nomade, flex office, coworking, environnement de travail et le fameux WFA. Vous nous expliquerez un peu plus en détail ce que c'est pour les non-initiés. Mais on va d'abord démarrer par la première question. Quelle est la promesse d'Ozol ?
Tout à fait. Ben, globalement, pour remettre le contexte, Ozol, à l'origine, c'est une spin-off de l'Agence spatiale européenne qui travaille à développer des solutions d'énergie nomade. Et dans le cadre de l'immobilier, en vendant l'énergie nomade, on fournit la dernière brique qui manque à une totale flexibilité de l'immobilier et de l'environnement de travail. Désormais, maintenant que l'énergie bouge, les travailleurs peuvent travailler où ils veulent, quand ils veulent, sans contrainte, et le bâtiment, il devient vivant, évolutif, et du coup, il est beaucoup plus éco-responsable.
Très bien. Alors, vous rendez l'énergie nomade. Là, je me tourne vers le tech, le super tech aujourd'hui, et je lui dis, il faut donner une minute à Maxime pour qu'on en sache un peu plus. Comment ça marche? Depuis quand ça existe? Tout ce que vous pouvez nous raconter pour nous faire encore plus découvrir votre nouvelle et belle start-up. C'est à vous, Maxime.
Bien sûr. Bien sûr. Ben, en fait, d'où ça vient à l'origine? Donc, comme je disais, spin-off de l'Agence spatiale européenne. On développait ces systèmes pour les ONG et puis on s'est retrouvé dans un grand salon aux États-Unis à rencontrer des directeurs immobiliers, des directeurs d'environnement de travail qui nous ont globalement demandé de créer la même chose que le Wi-Fi, mais pour l'électricité. Justement parce que la structure fixe des prises était très problématique pour eux. Et donc, du coup, on les a contactés, on a co-créé avec pas mal de grands comptes une station de batterie intelligente en libre-service qui alimente tous les équipements nomades du collaborateur. Et l'idée, c'est de créer un réseau interne à l'entreprise, un peu comme le Vélib, mais pour l'énergie. Pour que tout d'un coup, l'énergie elle puisse accompagner le collaborateur n'importe où. Et tout ça, on le fait dans une démarche circulaire, éco-responsable. On accumule aussi beaucoup de données pour mieux comprendre les usages de l'environnement de travail et plus loin le faire évoluer.
Donc on prend une batterie qui a une puissance et une autonomie suffisante pour pouvoir travailler une journée, une demi-journée. Comment ça se passe ?
Ça permet de travailler pendant toute une journée sur son ordinateur portable sans jamais avoir besoin de prise, de recharger son téléphone sans fil et même de se passer du chargeur. Donc l'idée, c'est vraiment on enlève toute la contrainte autour du collaborateur pour faire en sorte que n'importe quelle surface devienne un vrai poste de travail.
Donc plus besoin de prise dans les espaces de coworking, par exemple, où des fois c'est un peu la bagarre.
Exactement, en fait, plus de courant fort pour tout ce qui va être l'endroit où la personne travaille, dans les coworking, les grands comptes, les espaces informels, les salles de réunion, les écoles aussi avec qui on travaille beaucoup en ce moment, les hôtels. En fait, tous les espaces qui reçoivent des travailleurs et qui vont vers des espaces plus ouverts, plus collaboratifs et plus flexibles.
Et donc une économie, j'imagine, à la conception des immeubles également.
Alors en fait, une économie à la conception de l'immeuble, mais surtout dans la vie de l'immeuble, puisqu'aujourd'hui, on va faire évoluer assez fréquemment les espaces de travail. Et on se rend compte avec les nouveaux modes hybrides qu'on ne sait pas en fait quel est le bon espace pour le travail de demain. Parce que les besoins changent de plus en plus souvent.
Oui, c'est ça. Ouais.
Exactement.
Également. Ok, et depuis quand Ozol existe ?
Donc l'entreprise a été créée il y a 4 ans sur cette partie purement ONG défense spatiale. Et cette nouvelle branche liée à l'immobilier qu'on a complètement séparée et sur laquelle on vient de lever des fonds, c'est une branche qui existe depuis 2020. Donc, on a commencé il y a tout pile 2 ans.
D'accord. Et qui vous fait confiance aujourd'hui ?
Pas mal de grands comptes. Donc, on a fait des grandes entreprises comme Orange, EDF, Atos, des foncières comme Gétina, Wicad, des coworking comme Flexo, par exemple.
Évidemment, ou même des écoles. Donc, évidemment, là, on salue Christophe Courtin qui nous a mis en relation et qu'on remercie.
Évidemment,
le créateur et patron de Flexo.
Oui, qui a été une des premières personnes en fait à nous supporter sur ce projet d'ailleurs.
Supporter dans le sens sportif du terme.
Exactement, à tous les niveaux en fait, parce qu'il nous a aussi permis de prendre conscience de certains enjeux de l'immobilier, vu que nous on venait pas de cet écosystème à la base. Ça a été un très grand soutien.
Ok, super, bravo. Bon, et si on veut vous contacter demain, comment on fait?
Par tous les canaux possibles, directement par email à maxime@osol.co, sur LinkedIn, Maxime Cousin. Et puis les autres canaux, je laisserai le plaisir aux gens de les chercher, ils sont plus privés.
Ok. En tout cas, on reprendra un résumé de l'interview sur LinkedIn, donc on permettra à tous nos auditeurs de retrouver vos coordonnées, comment vous joindre. Bravo Maxime. Une dernière question, dans 5 ans au sol, c'est quoi?
La vision en fait qu'on a aujourd'hui, c'est de permettre à n'importe qui de pouvoir travailler n'importe où, sans plus avoir de contraintes. Donc aujourd'hui, on commence par adresser ce problème de l'énergie à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur du poste de travail. Mais la vision demain, c'est de faire sortir ça du poste de travail, c'est-à-dire aussi bien qu'on puisse créer les trottinettes électriques, les Vélib ou autres, de créer un réseau en Europe qui nous permettra à n'importe qui finalement de pouvoir prendre une unité et d'adresser tous les besoins du travailleur. Donc l'énergie en est un et il y en aura d'autres dans le futur.
D'accord, c'est très intéressant. En tout cas, on vous souhaite plein de succès pour les prochains mois, prochains trimestres et semestres à venir. On aura l'occasion de suivre, mais également de vous accueillir à nouveau pour que vous nous racontiez la belle trajectoire que vous êtes en train de tracer. En tout cas, un grand bravo. J'en profite pour remercier notre partenaire bien ici qui nous permet chaque semaine de découvrir une belle start-up comme aujourd'hui au sol. Et je vous dis à très bientôt Maxime, merci beaucoup pour votre contribution, bravo.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion de Système, promis et bien ici.
Et on va bientôt accueillir, plus présenter notre invité, il est primordial, acteur incontournable en ce moment, parce que depuis 25 ans, Apsis en fait s'attache à créer des lieux de vie, de partage à forte valeur ajoutée urbaine et sociale. Alors par exemple, il y a Manufactura qui a redynamisé la ville de Lodz, il y a Beaugrenelle qui a été le moteur de la requalification du quartier du Front de Seine à Paris, ou bien Steel qui a redessiné le paysage de l'entrée de ville de Saint-Étienne. Et bien tout ça, c'est la griffe de Maurice Bancet, président d'Apsis, que Sylvain Lévy-Valenzy, vous connaissez pas très très bien.
Absolument, que je connais bien. Et ce que je disais hier, je vais vous le redire, puisque j'ai publié un post, et vous avez d'ailleurs été très gentil, je voudrais faire un clin d'œil à Meka Brunel, j'espère qu'elle nous écoute, qui nous a liké ce post, et elle comprendra pourquoi. C'était de dire que dans une vie professionnelle, qui est une vie longue, puisque voilà, ça fait un peu plus de 35 ans que je suis dans ce métier, il m'est arrivé de rencontrer peu de personnes qui m'ont impressionné. Mais pas uniquement sur le plan de la réussite professionnelle, sur le plan de la réussite matérielle, c'est un autre sujet. Peu de personnes m'ont impressionné sur le plan de la vivacité de cette vision créative et de cette vision jubilatoire. Il a le regard jubilatoire, Maurice Bancet. C'est quelqu'un, quand vous le voyez, vous avez tout qui sourit. Vous savez, quand il sourit, il y a tout son visage qui sourit. C'est quelqu'un qui est peut-être doté d'une grâce naturelle, en tout cas d'une vision. Il est porteur d'un immobilier de conviction. Et cet immobilier de conviction, il est multiple, hein, il est multipolaire. Il a déjà, d'ailleurs très bien compris ce que c'était que la mixité fonctionnelle et la mixité d'usage, puisqu'il l'a démontré à plusieurs reprises. Vous avez cité des éléments emblématiques, mais il est aussi installé à Metz, il est aussi installé du côté de Bordeaux, il y a un projet bientôt qui verra le jour. Et il y a aussi une vision qui est portée par Apsis Group avec un ADN. Un groupe familial, il faut le rappeler, un groupe familial qui dispose aujourd'hui d'une véritable notoriété. Alors bien évidemment, notoriété sans ennemis, on va dire dans le bon sens du terme, ça ne peut pas fonctionner. Parce que bien évidemment, une réussite à ce niveau-là, c'est forcément quelque chose qui relève un petit peu de cette estimation que l'on a sur les certains certaines personnes. Il y a peu de monde aujourd'hui dans le monde de l'immobilier qui sont porteurs, comme Maurice Bancet, de cet immobilier de conviction dans lequel il a bec et ongle fait face à ces éléments-là. Voilà, je voulais lui dire, pour dire que finalement dans ce métier, pour réenchanter finalement ce qui apparaît comme très financier, ce qui apparaît comme très corporate, souvent on a ce discours, c'est bien d'avoir des personnages comme vous, Maurice Bancet.
Bah écoutez, Sylvain, je suis d'abord très touché par vos propos, et je vous en remercie. Non, je voulais vous, peut-être juste un mot, moi je pense avant tout qu'une entreprise doit être humaine, et que le métier, les convictions que nous exerçons dans notre activité, on les développe d'abord sur un plan humaniste. Et donc, quand vous avez cette dimension humaniste, vous déterminez vos actions de façon peut-être un tout petit peu différente. Voilà.
Belle conclusion pour cette fin de première heure. On va parler de vous pendant une heure, Maurice Bancet. Il est 7h59, c'est les Infos G. On se retrouve tout de suite après.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.